France Musique. Alex Dutille, Open Jazz, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alexandre Tarot.
Bonsoir. On a force de dire bonjour.
Ça y est, là, ce coup-ci, c'est bonsoir. Alors, on vous entendait chez Frédéric Lodéon. C'est un transfert au sens footballistique du terme, pas au sens psychanalytique du terme, que vous passiez du carrefour de l'Odéon à Open Jazz. Moi, j'ai eu envie, Alexandre, de vous faire écouter quelques grands maîtres du piano jazz, histoire d'avoir vos remarques, votre fraîcheur d'oreille, en tant que pianiste, en tant que musicien, votre sensibilité aussi, sur... On va faire quasiment un siècle de piano jazz, puisqu'on va démarrer tout de suite, en 1928, par Earlines. Earlines, avec à ses côtés, Louis Armstrong. Je suis sûr que ça va vous évoquer quelque chose. Weatherbird, c'est le 5 décembre 1928, en tête-à-tête, Louis Armstrong pour la trompette et Earlines pour le piano. De fortes expressions musicales, hein, Alexandre Tarot.
Ce qui est très intéressant, c'est la rythmique implacable derrière, hein, une rigueur au piano, une rigueur sur laquelle se pose en toute liberté la trompette de Louis Armstrong. En grande liberté. Puis ça m'évoque le Bœuf sur le Toit. Vous savez que j'ai fait un disque il y a quelques années autour de ce cabaret ouvert.
Et des musiques qui s'y jouaient.
Absolument. C'était du côté de la Madeleine, janvier de 1921. C'est Jean Vienner et Clément Doucet qui étaient au piano le plus souvent. Et ils invitaient des musiciens américains. Et dans ce cabaret, le tout Paris est venu découvrir entre parenthèses, beaucoup de musiciens classiques comme Ravel, Satie et bien d'autres, Millot, Poulenc, découvrir le jazz par les meilleurs instrumentistes du moment. Et ça, c'est une époque extraordinaire. Et le Bœuf sur le Toit a vraiment eu une place fondamentale dans l'histoire du jazz à Paris.
Et du jazz, et aussi de ce fameux groupe des Six, vous évoquiez. Vous parliez de Darius Milhaud.
Il s'est inspiré du jazz.
Vous savez qu'il a. Il a été le maître de Dave Brubeck.
Ah ouais.
Dave Brubeck n'aurait jamais été Dave Brubeck s'il n'avait pas pris des cours avec Darius Milhaud quand Darius Milhaud était parti sur la côte ouest américaine.
C'est-à-dire que Darius Milhaud, avant même d'aller aux États-Unis, a découvert le jazz en France. Et puis il a été au Brésil où il a découvert la musique brésilienne. Enfin, il a découvert, il s'en est inspiré pour sa propre musique. C'est l'un des premiers à avoir compris combien le jazz apportait de nouveautés et pouvait enrichir la musique classique.
On va écouter une des nouveautés du jazz après la force d'expression de Earl Hines à côté de Louis Armstrong, c'est le swing. Le swing, on est dans plein milieu des années 30, c'est Teddy Wilson, le pianiste, avec Benny Goodman à la clarinette et Gene Krupa à la batterie. Gene Krupa pour la batterie, Benny Goodman à la clarinette, et puis cette manière de faire danser le piano, Teddy Wilson, l'un des pianistes de l'époque qu'on appelait le swing, cette façon d'être léger, d'avoir un ton léger pour dire des choses fortes.
Comment au piano, comment vous entendez ça? On sent qu'il joue de manière beaucoup plus aérienne.
Exactement. Exactement, par rapport à Airlines qu'on a écouté avant. Absolument. Alexandre Tarot, dans Open Jazz, alors, quand vous entendez aussi Teddy Wilson avec la clarinette de Benny Goodman, ça évoque des souvenirs pour vous de jeux avec un clarinettiste.
Ah, Michel Portal.
Oui.
Michel Portal, grand monsieur, du jazz et du classique. Il embrasse un répertoire absolument gigantesque. Et je crois qu'il a pas loin de 80 ans.
Il a fêté ses 80 ans.
Il vient de fêter ses 80 ans. C'est un tout jeune homme. On a encore enregistré une petite chose l'autre jour ensemble. Enfin, une petite chose.
C'était quoi? Vous pouvez nous le dire.
Je peux pas vous dire parce que c'est pour un projet futur. J'ai l'interdiction d'en parler. Mais il était plus jeune que nous tous. Et avec encore une fraîcheur dans l'improvisation, c'était incroyable.
Et quand vous entendez Teddy Wilson et cette manière de se placer sur le temps qu'on a appelé le swing, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît hors de portée de ce que vous avez fait? Ou vous vous dites juste, si je m'immergeais dans cette musique-là, moi, Alexandre Tarot, je pourrais peut-être y arriver quand même.
Je l'ai bien vu quand j'ai joué du jazz des années 20 pour mon disque et mes programmes de concert autour du Bœuf sur le Toit. Je ne suis pas un jazzman. Et nous, musiciens classiques, on n'a pas le lâcher-prise. C'est ce qui nous manque pour bien jouer du jazz. On n'a pas le lâcher-prise. Ou alors on décide, comme Baptiste Rotignon, qui a une formation classique. Mais après, il a décidé d'être un jazzman. Donc il a coupé. Il a coupé avec le classique. Il s'en sert de cette formation solide, notamment pour les harmonies et tout ce que lui ont apporté des compositeurs comme Debussy, Ravel. Mais c'est vraiment un jazzman. Et là, il a, j'imagine, à l'époque, changé son jeu et il s'est libéré du carcan que peut être la musique écrite. C'est ce qui fait la grande différence entre les jazzmen et les pianistes classiques. C'est une certaine liberté que l'on ne peut pas avoir quand on joue une partition écrite. Quand on joue la musique d'un compositeur, parfois on joue notre propre musique, mais en général c'est la musique des autres, et principalement de la musique des morts, parfois morts il y a 3 siècles, on est responsable d'un texte. Le texte est là avant tout. Je donne mes concerts toujours avec partition. C'est pour mes problèmes de mémoire, mais j'aime aussi cette idée d'avoir le texte sur la scène. Le texte, pour moi, est là plus présent que le piano et l'interprète. Et la notion du texte n'existe pas dans le jazz.
Ou marginalement. Mais alors, tiens, je vais vous prendre au mot avec un contre-exemple, Alexandre Tarot. C'est un pianiste qui a fasciné beaucoup de musiciens classiques, à commencer par Horowitz, qui en a parlé, qui était allé le voir en club, qui comprenait pas, il croyait qu'il y avait 2 pianos, alors qu'en fait c'était un seul pianiste, un pianiste non-voyant, Artetum. Artetum, on va l'écouter en solo dans l'élégie de Massenet, mais à sa façon. deux énormes mains et 10 doigts seulement de Artetum, le 28 décembre 1953, sa version de l'élégie de Massenet. Vous avez eu le sourire, Alexandre Tarot, en l'écoutant.
Oui, parce que c'est hors du commun. Et puis, vous aviez raison de parler d'Horowitz. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on les regarde jouer, ils avaient à peu près le même jeu. Horowitz, c'est dans l'histoire, à ma connaissance, c'est le seul pianiste classique à jouer avec les doigts tout droits, tout tendus. Et il avait, avec ces doigts-là, un son unique, mais un très, très beau son. On retrouve un peu ce son-là chez Artetum. Un son assez percussif, mais rond. Et puis, une virtuosité... une virtuosité ovni. Et puis ce que j'aime aussi, c'est sa manière de briser les codes, tous les codes, de faire fi de tout ce que...
Une partition, mais toutes les pages sont parties dans un courant d'air. Quoi.
Et puis il passe, oui, on a l'impression qu'il passe d'une page à l'autre, qu'elle serait chassée par un courant d'air, et sans souci d'unité, sans souci d'architecture de cette pièce. Il passe d'un climat à l'autre et il se fait vraiment plaisir, comme si le ciel allait lui tomber sur la tête en 2 heures. Donc il faut y aller.
Un grand maître du piano jazz, Artetum, c'était sur la fin de sa vie, c'était en 1953. Entre-temps, il s'était passé quelque chose d'important dans l'histoire du jazz, Alexandre Tarot, c'est l'éclosion du bebop autour de 1945 à New York. On va écouter Thelonious Monk, qui est une des grandes figures de cette école-là, mais juste avant, celui qui a été peut-être beaucoup moins connu que Thelonious Monk, mais très important sur le plan harmonique, c'est Bud Powell. Une courte composition de lui qui s'appelle Tempus Fugit. Bud Powell au piano avec Ray Brown à la basse et Max Roach à la batterie. Tempus Fugit, c'est au début de l'année 1949. Le bebop dans toute sa splendeur. Et puis cette façon de se jeter à corps perdu dans une improvisation.
Comme Alexandre un ostinato, Tarot. Dans le classique, on appellerait ça un mouvement perpétuel. Ou un ostinato. et il n'y a pas de surprise finalement dans cette pièce. Ça part et ça ne s'arrête pas.
Tout droit.
Et aussi la contrebasse que je trouve assez merveilleuse avec ses chromatismes qui, elle aussi, ne s'arrête pas. Et je suis content d'être avec vous parce que c'est,
ah ben bon,
c'est un
que
peu les vacances
là.
Dans cette journée terrible, finalement. Et puis, non seulement c'est les vacances, mais j'apprends des choses.
En
je
tout
découvre.
Cas, je pense que les contrebassistes qu'il admire tous, Ray Brown, pour une manière de poser le ton d'une façon inflexible et d'avancer en même temps avec ça, d'une certaine façon, le grand classique de la contrebasse dans le jazz, Ray Brown. Ils vont être très heureux que vous ayez remarqué que, parce que c'est pas, on entend évidemment la batterie de Max Roach aussi très, de façon très évidente. Mais en tout cas, bravo pour votre oreille sur Ray Brown à côté de Bud Powell.
Ah mais moi, j'aime les basses. J'aime la contrebasse. Donc, je l'écoute.
Comment
j'aime
vous faites
basses dans un orchestre.
Oui. Quand vous jouez en concertiste, vous entendez les contrebasses?
Quand on joue un concerto pour piano et orchestre, on entend très peu les contrebasses parce que le piano est donc devant l'orchestre et avec le couvercle ouvert. Donc le couvercle, qui est souvent assez lourd et en bois très serré, très ferme, ne nous permet pas d'avoir un accès sonore aux contrebasses. On les entend, mais de très loin. Et surtout, quand on est comme ça, au centre de la scène, devant l'orchestre, on a les premiers violons qui nous crient dans l'oreille. Enfin, qui nous crient, ils jouent très bien, mais ils sont quand même très proches de nous et ils couvrent un certain nombre de musiciens dans l'orchestre. Mais j'aime les contrebasses dans d'autres formations, quand je suis dans la salle ou à l'opéra ou en musique de chambre, quand on joue à plusieurs. C'est un de mes instruments favoris. Ça me touche beaucoup, la contrebasse.
Il y a une très belle définition de la contrebasse qu'avait donnée Francis Marmande, mon confrère du Monde, qui lui-même contrebassiste amateur, il a dit un jour que c'était la voix de son père avec les hanches de sa mère. C'était une jolie définition. Thelonious Monk, je vous le promettais, c'est un peu l'ange du bizarre dans le piano jazz. Le voici sur une composition de Gershwin, Liza.
Thank you.
Liza de Gershwin par Thelonious Monk en trio avec Oscar Pettiford et Art Blakey, mais surtout Thelonious Monk en 1956. Est-ce que le qualificatif de bizarre que je donnais avant de l'écouter vous semble pertinent, Alexandre Tarot, ou ça vous semble évident au contraire?
Je ne sais pas, mais oui, il y a une grande évidence dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence. J'ai remarqué qu'il y a presque deux catégories de pianistes de jazz, ceux qui ont peur des silences et ceux qui n'en ont pas peur. Enfin, ceux qui veulent combler, qui jouent tout le temps, sauf dans les passages où ils veulent mettre en valeur la basse ou la batterie ou d'autres instruments.
C'était le cas de Bud Powell juste avant.
Ouais. Et puis ceux qui aiment les silences. On a souvent peur des silences, quelle que soit la musique que l'on joue.
Et pourtant, moi j'adore les pianistes qui laissent un espace comme ça, parce que c'est une manière pour nous auditeurs de rentrer aussi avec notre propre imaginaire, notre propre sensibilité.
Oui, là quand il fait seul là, et puis ensuite, c'est un petit peu comme s'il disait à l'auditeur, tiens, attends, tu viens d'entendre ce que je viens de faire ? Attends, ouais. Je vais t'en faire un autre. Ah, tu as entendu là ? Et comme ça, il instaure un dialogue.
Il y a un côté « viens dans ma musique » dans le silence.
Absolument. Et puis c'est un petit jeu de ping-pong aussi avec l'auditeur. Et puis dans ces silences-là, il met en valeur, mine de rien, les deux musiciens qui sont derrière.
Alex Dutille, Open Jazz, France Musique.
On va écouter un maître du silence, Alexandre Tarot, si vous voulez bien. Il était au festival de Marciac cet été. Il est né en 1930, il a donc 86 ans. Il se porte comme un charme. Il s'appelle Ahmad Jamal. Et l'énorme succès qu'il avait eu en 1958, c'était avec un disque enregistré dans un club de Chicago qui s'appelait le Pershing, avec Israel Crosby à la basse et Vernel Fournier à la batterie. Et ces trois hommes-là avaient apprivoisé le silence. On va l'entendre dans ce standard qui s'appelle « But not for me ». Imaginez, Alexandre, que vous êtes assis au Pershing au premier rang. But Not For Me, Ahmad Jamal en 1958 au Pershing de Chicago avec Israel Crosby et Vernel Fournier. Ahmad Jamal, toujours un immense pianiste. Aujourd'hui, vous avez eu la chance de le voir jouer Alexandre Tarot.
On s'est croisés, on a même partagé la même loge. C'était au festival de la Roque d'Anthéron, donc dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Et c'était il y a quelques années, j'avais donné un concert. Et donc c'était le même public qui assistait au concert classique et ensuite dans la foulée à un récital d'Ahmad Jamal. Et je l'ai croisé, on s'est à peine parlé, mais je suis resté à son concert, évidemment.
C'était, et qu'est-ce qui vous a frappé ?
C'est un délicieux souvenir. Ce qui m'a frappé, ses mains, des mains assez fines, un legato aussi. Certains pianistes de jazz jouent avec un son plutôt percussif, utilisent le piano aussi comme un instrument à percussion, mais ne vont pas travailler la matière sonore. Et avec lui, j'avais autre chose, je découvrais autre chose. Un grand sens du legato, de la phrase. Aussi, quand il joue, c'est comme s'il ne voulait pas y toucher. Il y a, dans l'histoire du piano classique, il y a des phénomènes comme ça. Claudio Arrau, par exemple, il arrivait sur scène comme s'il s'excusait de venir jouer. Là, il posait ses mains sur le piano, il ne faisait aucun geste et son son était gigantesque et nous transportait. Avec lui, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il ne fait aucun effet. Il est là avec ses mains très fines. Et des harmonies aussi, une manière de prendre son temps pour déclamer la musique, pour la chanter, pour s'adresser à nous. Et le temps, c'est quelque chose qui me fascine chez les jazzmen, leur rapport au temps. On n'a pas le même. Hein, dans la musique classique, tout est millimétré comme du papier à musique, c'est le cas de le dire. On joue un texte qui est... on travaille sur l'anticipation de la musique. Quand on démarre une sonate de Chopin, on sait exactement quand elle va se terminer et comment elle va se terminer. On va faire un grand geste musical, une sorte de voyage, mais qui est préétabli. Aussi, dans notre travail au quotidien, on travaille dans l'anticipation. Là, ce matin, entre deux émissions, j'ai travaillé le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, très inspiré par le jazz d'ailleurs, que je vais jouer à Dortmund la semaine prochaine. Mais je travaille en sachant que je vais le jouer dans 5-6 jours. Je travaille également en ce moment des pièces que je vais jouer dans un an. Alors voilà, on travaille comme ça dans l'anticipation et ça rejaillit sur notre vie au quotidien. Nous sommes des gens qui anticipent tout. Par contre, un pianiste de jazz, lui, n'anticipe pas. C'est un improvisateur. Et je me rappelle avoir fait des concerts à deux pianos avec un ami qui s'appelle Baptiste Rotignon, que vous devez connaître,
bien, bien
un grand pianiste de jazz. On s'était amusé, on avait même fait une tournée en Asie. On jouait à deux pianos, ses propres œuvres, et puis on jouait du classique, il jouait aussi solo ses improvisations. Mais on n'avait pas du tout le même rapport au temps. Ne serait-ce qu'en rentrant sur scène, on ne rentrait pas avec la même énergie, la même pulsation intérieure. Voilà, c'est deux manières de vivre le temps. Et ce qui m'avait frappé, vous me dites si je suis trop bavard.
Non, pas Alexandre Tarot, je bois vos paroles. C'est les silences d'Ahmad Jamal qui ont déclenché tout ça.
Oui, absolument. Et je me souviens justement de ce concert d'Ahmad Jamal à la Roque d'Anthéron. Et je me disais, mais c'est incroyable comme il nous fait perdre notre rapport au temps, notre horloge intérieure. Parce que c'est une musique, surtout avec lui qui prend son temps, c'est un jazz qui est une chasse chewing-gum, quoi, qui étend, qui dilate le temps jusqu'à l'extrême. Et nous, on est là dans notre fauteuil et on aime ça. Il nous fait aimer ça.
Parce qu'on se sent respirer aussi.
On se sent respirer et on ne sait plus vraiment où on en est. Est-ce qu'il est 9h du soir, 10h, 11h, et puis on s'en fout. Et c'est une sensation très agréable.
Alexandre Tarot, j'ai une bonne nouvelle, il est 18h36, on va écouter un autre grand pianiste de l'histoire du jazz qui a lui aussi ce rapport au temps très singulier. C'est une musique dans laquelle on s'entend là aussi respirer, on se sent palpiter. Moi j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je l'entends, vous avez compris que je ne le déteste pas, c'est Bill Evans.
Thank you.
Bill Evans au piano avec Scott Lafaro à la contrebasse. Vous qui aimez les contrebassistes, Alexandre Tarot, vous avez dû être servi. Oui. Et Paul Moncion à la batterie. 2 février 1961, quelques mois avant que Bill Evans et ses deux camarades enregistrent au Village Vanguard et que 10 jours après, Scott Lafaro disparaisse dans un accident de voiture. Ça allait dévaster Bill Evans. En tout cas là, ils étaient au paradis tous les trois. Comment, Alexandre Tarot, vous découvrez ce trio-là avec Bill Evans, vous le trouvez comment comme pianiste?
J'entends de la plénitude, hein, beaucoup d'intensité, chez les trois d'ailleurs, mais j'écoute plus le piano là parce que c'est un pianiste et je suis un pianiste, donc je l'écoute avec mes oreilles de pianiste. Mais beaucoup d'intensité, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas une seule fausse note, enfin qu'est-ce que ça veut dire une fausse note, surtout dans le jazz, mais pas d'approximation, comme si la musique était écrite. Chaque note est pesée, sous-pesée, forte. Et oui, aucune
chaque phrase,
approximation.
Chaque phrase aussi. Moi, j'aime bien comment on a l'impression qu'il pense, évidemment, d'une phrase sur l'autre. Le discours n'est pas préparé à l'avance, mais il y a une logique implacable, il y a une architecture dans son solo.
Oui, absolument. Et en même temps, un grand calme, enfin, une maîtrise.
Bill Evans, entendu par Alexandre Tarot.
Bonjour, c'est Alexandre Tarot.
Toute la journée sur France Musique.
Et dans Open Jazz aussi.
C'est drôle, je viens d'entendre ma voix.
C'est incroyable. J'ai cru que vous étiez ventriloque pour un instant dans le studio, Alexandre Tarot. Je vous ai préparé pour maintenant un des pianistes stars du monde du jazz d'aujourd'hui. Il s'appelle Keith Jarrett. C'était il y a 30 ans, en 1986, en trio sur les Feuilles Mortes. Thank you. solo de Kezaret dans Les Feuilles Mortes, Autumn Leaves. C'était en 1986 à la Philharmonie de Munich. Et il y avait bien sûr Gary Peacock et Jacques Dejonnette à ses côtés. Alexandre Tarot, Kezaret, j'ai senti que c'était un peu moins votre truc.
Oh, c'est un peu moins mon truc, mais c'est quand même un géant du jazz, donc je vais pas, je ne me permettrai pas de critiquer.
Vous parliez de lâcher prise au début de l'émission, ah bah là, chez les jazzmen.
Là,
ça
y
est,
on est servi.
Il lâche tout.
On sent le show, même on l'entend respirer, chanter, crier parfois. Et on sent le public aussi. On sent la présence, je ne sais pas pour vous, mais je n'entends pas, enfin je ressens la présence du public et je sens le show qui chauffe.
Vous l'entendez aussi quand, dans vos concerts classiques, le public? Vous savez juste qu'il est là.
Je suis extrêmement sensible à la présence du public, donc je peux rater mon concert, je mets ça sur le dos du public. Non, je peux rater un concert parce que je ne me sens pas en confiance, parce que je ne me sens pas entouré. Pour moi, un concert se fait, s'il y a 2000 personnes dans la salle, à 2001 personnes. On est tous là, on doit se tenir la main et on fait ce voyage ensemble. Si on n'est pas ensemble, ça ne sert à rien de travailler sur ce voyage. Et oui, quand on est sur scène, on une sorte d'énergie comme ça... énorme qui nous vient de la salle.
Et là, on l'entendait, effectivement.
Très fort. Et puis, on sent que les musiciens veulent aussi aller vers ce public. Ils veulent qu'ils en veulent.
On va terminer cet Open Jazz, Alexandre Tarot, avec un pianiste cher, comme Bill Evans, d'ailleurs, à votre ami Baptiste Troutignon, c'est Brad Meldo, et qui, avec comme Baptiste, a cette particularité d'être aussi un excellent compositeur. C'est-à-dire que les improvisateurs de jazz, ils écrivent aussi des mélodies, parfois magnifiques. Convalescent, c'est Brad Meldo. Convalescent, c'est une composition de Brad Meldau avec Jorge Rossi à la batterie, Larry Grenadier à la contrebasse. Composition donc par le pianiste de jazz, comme Thelonious Monk a été un immense compositeur. Comment vous trouvez ce côté-là chez Brad Meldau, le côté
il a une formation
l'écriture
classique. Je parlais de Baptiste Rotignan tout à l'heure, ce sont des jazzman qui ont commencé par le classique et ça s'entend. À mon sens, ça s'entend.
Et vous pensez que c'est important pour l'écriture aussi, Alexandre Tarot, quand on compose?
Non, pas forcément. Enfin, ça donne une autre musique. Les autodidactes ont écrit des musiques incroyables. Berlioz était un autodidacte. Il a créé des harmonies bizarres qui, après, ont donné la voix à de nouveaux compositeurs. Là, j'entends beaucoup la main gauche. Il y a une grande science de la main gauche et des harmonies. Des contre-champs, si parfois il y a presque une fugue à un moment. Et Voilà.
Il lui arrive souvent à Brad Meldau, je vous encourage à, comme vous l'avez fait pour Ahmad Jamal, si vous avez l'occasion de le voir en concert, c'est un pianiste qu'il est important de voir pour entendre mieux sa musique. Et souvent, il a une facilité à croiser les mains et à aller faire les lignes de basse à la main droite et la mélodie à la main gauche, parce qu'il a une main gauche tellement exceptionnelle qu'il peut se le permettre.
Ouais.
Bravo! Bravo pour vos oreilles et merci Alexandre Tarot.
Merci à vous, je suis très content d'avoir participé à cette émission.
C'était un peu une récréation pour vous.
C'était
aujourd'hui.
C'était la récréation du jour.
Dans la journée spéciale d'Alexandre Tarot sur France Musique. Avec nous pour faire cet Open Jazz, Alexandre, il y avait Thibaut Nassimben, Emmanuel Dupuis, Ben Kachmarek, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora. Demain, dans Open Jazz, figurez-vous que je serai avec notre très grand pianiste, Gonzalo Rubalcaba, le grand pianiste cubain. On sera en direct et en public depuis le festival Jazz d'Or à Strasbourg, à la Cité de la Musique. Venez nombreux !